Vous voulez tout savoir sur la navigation fluviale et maritime éco-responsable? Le guide pratique La plaisance écologique paru aux éditions Vagnon est fait pour vous. Nous écoutons l'auteur, Paul Dehaut. Il revient sur le terme écologie.
Alors c'est un terme, quelquefois on me dit, ah ben tiens, c'est sympa ce terme-là, tu as inventé ça. Ben non, je n'ai rien inventé. Ça remonte déjà aux années 70, 73, si j'ai bonne mémoire, où des gens se sont dit, mais finalement, pourquoi ne pas faire converger les intérêts économiques avec finalement ceux de l'écologie, qui est en fait un développement durable et responsable. Ça a été un peu une nouvelle école de gens qui se sont penchés sur les possibilités qu'il existait de faire ce mariage un petit peu difficile à prime abord à réaliser.
Et alors, en quoi est-ce que le bateau est un mode de transport écologique?
Le bateau, par rapport à la fois au volume et au poids transporté, est vraiment une solution de développement durable en matière de transport. Puisqu'en gros, ça consomme environ, en termes de carburant et donc de pollution qui va avec, un minimum de 11 fois moins que le transport routier. Ça, c'est uniquement sous l'aspect, si vous voulez, impact en termes de pollution et d'usage de carburant fossile. Après, il y a tout l'aspect qui va avec, qui est la vie sur l'eau, la possibilité même d'y habiter, la possibilité de faire des croisières en ayant un impact le plus possible sur l'environnement. Et il existe moult solutions.
Et sachant que des alternatives sont nées, notamment avec le solaire et la propulsion électrique aussi.
Alors voilà, donc au niveau de la propulsion, c'est vrai qu'encore, ça reste pour l'instant quelque chose qui est quand même un petit peu à la marge. Moi-même, j'ai participé à la transformation de bateaux existants. C'est vrai que ça peut aussi représenter d'abord un investissement relativement important et pas toujours à la portée de toutes les bourses. Mmh. Et puis, on a un petit peu essuyé les plâtres pour les premiers bateaux transformés directement de carburant traditionnel vers ce qu'on appelle la propulsion électrosolaire. Mais c'est possible, ça fonctionne. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est en train de se développer, et chaque année il y a de plus en plus d'articles et de prototypes qui sont mis en place pour des bateaux qui soient directement prévus dès le départ pour une propulsion électrosolaire par l'intermédiaire de panneaux photovoltaïques et de batteries qui là aussi progressent énormément en termes de capacité, et puis autrement par un système de recharge à quai. Il faut quand même savoir que par exemple un moteur thermique à essence, il n'y a finalement que 43% du carburant qui est vraiment transformé en couple permettant la propulsion. Sur un moteur diesel, c'est encore pire puisqu'il n'y a que 25%. Et donc, par rapport à ça, ça fait à la fois une surconsommation de carburant, mais en même temps, il y a une quantité, si vous voulez, à la fois de gaz imbrûlé et de suie qui est relativement important et qui a un impact non négligeable sur l'environnement. Donc, il existe des systèmes qui permettent, sans entrer dans les détails, d'optimiser ça en permettant à la fois de moins consommer, d'avoir moins d'imbrûlé et moins de suie, donc c'est formidable. Et en plus, la cerise, je dirais, sur le pompon du capitaine, sur la casquette du capitaine, c'est qu'en plus, ça permet de préserver le moteur.
Vous avez dans l'ouvrage un chapitre qui est assez étayé sur les éco-gestes à adopter. Si on prend par exemple le mouillage ou encore la gestion des déchets sur le bateau, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête?
Il faut avoir finalement le même type d'éco-attitude en triant correctement, c'est-à-dire en ne mélangeant pas tout, en ne balançant pas ses déchets n'importe comment. Ça, c'est pour les déchets, je dirais, de la vie à bord. Mais il y a aussi les déchets produits par le bateau. C'est déjà, systématiquement, il faut éviter d'avoir une pompe de cale qui est mise en automatique, parce que on rejette évidemment de l'eau qui est souillée par des hydrocarbures. C'est terrible au niveau de l'environnement, des conséquences. Ça peut souiller, mais c'est des surfaces impressionnantes. Ensuite, évidemment, il y a, je dirais, les déchets sanitaires, c'est-à-dire les eaux grises et les eaux noires. Donc les eaux grises, tout le monde sait ce que c'est. C'est-à-dire, c'est le résultat effectivement de la vaisselle, de la toilette, des douches. Le plus simple, c'est de faire un petit peu comme à terre, c'est-à-dire d'utiliser des produits qui sont biodégradables, qui sont naturels. Mm-hmm. Il en existe maintenant de très très bons. On peut même se les faire soi-même. Et c'est là où il y a cette technologie, c'est que à la fois c'est bon pour l'environnement, mais c'est excellent pour le porte-monnaie parce qu'on s'en tire à 10 ou 20 fois moins cher. Ensuite reste le problème des eaux noires. Alors les eaux noires, et il y a des systèmes qui existent maintenant et qui permettent, effectivement, au niveau de ce qu'on appelle les ovales, donc les EVC, de les confiner dans un réservoir. Et puis, il y a de plus en plus de ports qui sont équipés de systèmes, si vous voulez, de pompage pour traiter ces eaux noires exactement comme c'est fait maintenant à terre avec les nouvelles lois sur l'eau à travers ce qu'on appelle le SPAND.
Et pour ce qui est du mouillage, alors ?
Le mouillage, il y a des nouveaux systèmes qui existent et qui sont des mouillages intelligents et qui évitent justement de racler régulièrement le fond avec un impact très, très, très important sur la vie du fond, aussi bien au niveau végétaux qu'au niveau des animaux. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, il existe des techniques de mouillage et des ancres qui, effectivement, sont moins, à ce niveau-là, blessantes pour les fonds que d'autres. Puis évidemment, il ne faut pas mouiller n'importe quoi. Ça, c'est déjà la base aussi.
Mais ça, est-ce que c'est des techniques ou même des savoirs, des informations tout simplement, qui sont données aux plaisanciers, quelque chose auquel ils sont sensibilisés quand ils passent leur permis bateau ?
Eh bien écoutez, moi j'ai passé pratiquement l'ensemble de mes permis et là-dessus, il n'y a pas vraiment de conseils dans le cadre du permis. Hein, même la réforme fin 2008 sur les permis bateau, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Mais il faut quand même dire que il y a quand même toute une frange qui n'existait pas dans les premières versions des permis bateaux, notamment des permis côtiers, concernant le respect de l'environnement, de la faune et de la flore. À ce niveau-là, il y a déjà un progrès, mais bon, c'est vrai que c'est pas encore très affûté à ce niveau-là pour l'instant. Quand on achète un bateau, la plupart du temps, on essaye d'être efficace. Quelquefois, la solution qui paraît la plus simple dans un premier temps peut avoir un impact sur un milieu confiné comme celui d'un bateau, en plus avec des sollicitations thermiques et d'humidité qui peuvent être aussi importantes, qui sont non négligeables par rapport notamment au dégagement, par exemple, de COV. Alors, tout ça a un impact sur la santé des occupants, et notamment de ceux qui vivent dessus, ou alors quand on navigue en hiver et qu'on est enfermé dedans, il fait froid. Dans l'entretien général d'un bateau, par exemple, normalement, tous les 2-3 ans, il faut refaire ce qu'on appelle l'anti-fouling. L'anti-fouling, qui est en fait une couche qui, la plupart du temps, est donc semi-dure et qui évite que les térébrants, les crustacés, les algues viennent d'une certaine façon s'accrocher à la coque du bateau et donc freiner son avancement. D'où surconsommation et évidemment moindre performance. Donc pour ça, on utilise des produits qui jusqu'à présent étaient quand même très nocifs pour l'environnement, hein, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. Bon, il existe de nouvelles générations d'anti-fouling qui peuvent d'abord durer à peu près une dizaine d'années à base de cuivre, puis il existe d'autres systèmes, donc il est quand même intéressant de connaître pour faire ce traitement, je dirais, qui est un petit peu obligatoire sur un bateau.
Autre système aussi, celui-là dû à la conduite plus du plaisancier, pour réduire les consommations en carburant et énergie. On connaissait l'éco-conduite pour les véhicules thermiques, mais il y a aussi l'éco-navigation pour la plaisance.
Il y a un moment, il faut savoir que par exemple, pour gagner, soit on va parler en eau intérieure, on parle de kilomètre-heure, bon, on parle plutôt de 1000 en mer, mais pour gagner finalement une ou deux de ces unités, quelquefois, il faut carrément doubler la consommation et le bruit, et donc la pollution. Il y a une limite de vitesse qui est très difficile à dépasser par rapport au type de carène. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que au niveau des voiliers, c'est pas du tout la même optimisation. La vitesse limite est évidemment beaucoup plus haute. Hein. Et puis, il y a différents systèmes de coques. Hein. Il y a des coques qui sont des coques à déplacement en dos, mais il y a aussi des coques planantes ou semi-planantes, et là, c'est un petit peu différent, donc c'est au niveau de la limite, mais il est évident qu'au-delà, le fait de vouloir aller un peu plus vite, ça a un tel impact à la fois sur le bruit, sur l'échauffement du moteur, sur la consommation et sur les rejets, qu'il est bon quand même d'y réfléchir. Et puis quand on est en eau intérieure, ou quand on passe des écluses, c'est vraiment un petit peu étonnant de voir des gens qui continuent à laisser tourner entre 20 minutes et une demi-heure que va demander ce qu'on appelle le sassement. Il y a des tas de choses comme ça qui sont quand même des mesures de bon sens et qui ne sont pas toujours appliquées.
Pour en savoir plus et pour aller au-delà de l'ouvrage, l'auteur Paul Dehaut vous recommande le site www.ecologie-solutions.info. Vous y trouverez évidemment une mine de solutions, notamment sur la plaisance écologique dans la rubrique transport.